Ressuscite-t-il les morts ? En leur sonne l'infligure qui n'est restée dans le tombeau qu'un court moment, mais le sage et le croyant disent qu'il y a passé tout le temps inscrit dans le livre. Quand tous les arbres serviraient de plumes et quand les sept mers seraient d'encre, le papier manquerait pour décrire les œuvres de Dieu qui englobe tout. Mais votre création et votre résurrection future ne sont qu'un seul geste pour l'unique. Historiquement, à partir de 1230, les Mongols ont commencé d'envahir l'Europe, ont balayé la Perse, ont balayé toutes les possessions islamiques, ils ont détruit les Abbasides, et ils ont anéanti également, d'ailleurs, on peut dire, la chrétienté, non seulement la chrétienté, mais toutes les civilisations d'amour, ou chrétiennes, ou néo-chrétiennes, ou bouddhiques, dans le monde. C'est la fin des Song en Chine, c'est la fin des Agès. En Éthiopie, c'est la fin des rois saints, c'est la fin de la grande chrétienté, et c'est la date annoncée par Schwarzenflor, 1260, pour être le début de l'incombation de l'esprit, la fin du temps du poisson. Il faut dire que ce que je viens de vous raconter représente en réalité, ne représente que 35 premières sourates, mais représente les deux tiers du livre, parce que les premières sourates sont très longues, et plus on avance dans le Coran, plus les sourates sont courtes. De telle sorte que les 79 sourates qui restent n'occupent que le tiers du livre. Le ton est donc très différent, le style beaucoup plus vif, et plus dur aussi. L'ésotérisme des lettres ne nous sert plus puisqu'il n'y aura pratiquement plus de lettres, il ne reste plus que 2 ou 3 lettres à venir. Et il n'y a plus de structure fondatrice, il s'agit d'autre chose. La sourate 36 porte une lettre YS. YS, bon, il y a le. Non, enfin, je parlerai des lettres. Mais c'est en même temps la premier serment jure par le Coran s'adresse. La sourate suivante porte jure par les ordres des anges qui dictent le document dicté le Coran. La 38e jure par le Coran foi. La 38e porte la lettre Sad. Ce sont donc des lettres nouvelles qui ne sont pas encore intervenues dans l'ésotérisme. Les sourates sont des sourates de désespoir, des sourates atroces. Absolument atroce, j'en jure par les ordres des anges, par ceux dont la fonction est de punir, par ceux dont la fonction est de lire. Si nous avons emmené le ciel proche de son collier d'étoiles, c'est pour le protéger de l'attaque des anges rebelles, que des traits enflammés repoussent de toutes parts, car ils sont dévoués à la quête éternelle. Ce sont les anges qui ont dirigé les signes et les structures, c'est des démons qui vont venir dans l'autre sens de la cause vers l'effet, du passé vers l'avenir. Et ce sont ces démons qui ont maintenant le droit de parole. Alors pourquoi ont-ils le droit de parole? On l'a déjà entrevu à un moment, mais là il le décrit plus précisément. Le voilà le jour de la séparation dont vous avez nié la réalité. Quand le Créateur eut façonné l'homme d'argile, il exigea des anges l'adoration. Tous les anges se soumirent à l'ordre du Créateur, à l'exception du seul Iblis. Je suis d'une nature plus excellente que l'homme, proclama le rebelle. Tu l'as formé de boue quand je suis fait de feu. Sois donc maudit, lui dit le Seigneur, jusqu'au jour dernier du jugement. Mais Iblis se supplia de différer sa vengeance jusqu'au jour de la résurrection. Et Dieu y consentit. Ah, s'écria Iblis, j'en jure par ta puissance de séduire les hommes. Tes serviteurs seuls seront épargnés. Et moi, dit l'Éternel, au nom de ma vérité, j'empirerai la géhenne de ceux qui t'écouteront. Tu y seras leur tête. Ce n'est là qu'un avertissement universel, comme vous le vérifierez un jour. Cette période, c'est la période des pestes noires. Les pestes noires qui ravagent la terre et qui suppriment, on ne sait pas quoi, peut-être le tiers, peut-être les deux tiers de l'humanité. Où disparaissent des villes d'un million d'habitants, des régions de 36 millions d'habitants comme l'Andalousie. On ne peut pas voir un livre de cette période sans y découvrir des hécatombes sans fin. Même le livre de Boccace qui chante la joie de vivre commence par la préface où il annonce. que c'est dans les supplices que s'infligent les hommes eux-mêmes pour essayer de ramener le Dieu d'amour, pour essayer qu'ils ne comprennent pas. Les hommes ne comprennent pas ce qui se passe, ne comprennent pas ce nouveau début, ce nouveau fléau, cette nouvelle horreur. Et pourtant, dit Nomé dans la 37e sourate, il faut que les hommes apprennent par le désastre à ne pas confondre l'arbre de vie avec le mauvais arbre sacré. Évidemment, ça devient très difficile. C'était déjà très compliqué, mais si en plus il y a un mauvais arbre en même temps qu'un bon, ça devient très dur. En fait, le prophète répète beaucoup, là, il se répète beaucoup, évidemment, il maudit ceux qui le railleront de vouloir rassembler tous les dieux en l'unique, et comme leur peuple ont raillé Noé, Lot, etc. Mais il ne répond pas clairement à la question, si les anges roulent le livre du temps, qui le déroule? Si ce qui se déroule, c'est le génie, le djinn, c'est-à-dire le serviteur d'Iblis, c'est comme Gog et Magog, au temps d'Alexandre, ont renversé aussi le temps. C'est-à-dire que c'était les gémeaux au temps d'Alexandre, c'est maintenant les démons de création, les génies. Mais alors, c'est donc que les démons, ou de magie, les Gog et Magog, ou de création, les djinn, ont un rôle à jouer dans la préparation de l'avènement futur. C'est donc que les démons créent Dieu. Les commentateurs de l'islam, et parmi les occidentaux, le merveilleux Henri Corbin, essaie pour résoudre le problème de distinguer des signes les émanés, qui ne sont ni créés, ni des états multiples d'un être, mais une multitude d'êtres si bien liés à leurs principes qu'ils ne font qu'un avec lui. En somme, ils ne sont ni différents, ni dedans, on retrouve les noms et le nom du Marabi, tout simplement. Il faut remarquer que des deux sortes de serments, certains vont se fonder sur le Coran seul, rigoureusement, et ça accompagnera toujours les dernières lettres. Yes, par exemple, j'en jure par le Coran seul. 38 sad, j'en jure par le Coran foi. Au contraire, les sourates qui ne sont pas signées essaient déjà de s'évader un peu, j'en jure par les ordres des anges, donc qui dit le Coran, mais il y a quand même un effet d'évasion du Coran proprement dit. Suivent ensuite 39 à 48 les sourates qui ont les lettres HM. Les lettres HM sont des lettres de création et de volonté, de puissance de création. C'est ainsi un ensemble dialectique, cette fois, qui n'est pas encore intervenu dans le corps. Deux de ces lettres signées, la 43e et la 44e, porte aussi, j'en jure par le signe de le livre de l'instruction, et j'en jure par le livre de l'évidence. Vous voyez, donc c'est très très important. En réalité, je vous dis tout de suite que le livre de l'instruction, c'est le livre des signes, c'est le livre qui a enseigné les cycles et l'éternel retour. Le livre de l'évidence, c'est celui que tout le monde peut constater, et qui va dans le sens du passé vers l'avenir, dans le sens de la... de l'entropie scientifique et rationnelle. Bon, le Coran et les deux, bon, il nous l'avait dit dès le début. On est de plus en plus dans le combat, d'ailleurs certains, il n'y a qu'à voir le titre des sourates non signées, les troupes, 39, le combat, 47, la victoire, 48. C'est évidemment la guerre, qui va imposer notamment le nouveau califat, le califat ottoman. Le califat ottoman a été fondé, non, pas le califat, enfin disons l'empire turc, le premier empire turc, date de la conquête d'Andrinople par Mourad Ier en 1360. Et c'est bien un démon, parce que Mourad Ier. Or, ce démon est chanté par toute la terre, dès la fin des pestes. Les contes de Chaucer en Angleterre, les contes de Boccace en Italie, c'est le triomphe du diable. La peste, les pestes sont finies, le fléau est fini, à nous la bonne vie, maintenant qu'on ne nous emmerde plus avec les moines et l'église, on va commencer à vivre et puis on va adorer le diable s'il le faut, puisque c'est le diable qui nous a sauvés de la peste et du fléau. Ces Turcs qui vont donc commencer à s'étendre à ce moment-là, qui vont grand adversaire que les Mongols, dont il triompha à peu près constamment, ces Turcs sont quand même à l'origine de la Renaissance. En fait, la période de la Renaissance est datée là des lettres HM, et elle va de 1363 à 1487. Ça pourra surprendre, puisque on nous enseigne souvent que la Renaissance est du 15e siècle. Mais la Renaissance islamique a précédé toutes les autres. En fait, il suffit de faire la liste des grandes mosquées, des plus grandes œuvres d'art qui valent toutes les œuvres d'art de toutes les civilisations, pour voir que ça court exactement cette période. 1360 mosquées de Zeramine en Perse, mosquée de Karl Tambouctou, d'Alhambra de Grenade, 1358-1362 mosquées de Hassan au Caire, 1398 mosquée de Barbouk au Caire, 1405 mausolée de Tamerlan à Samarcande, 1414-1424 mosquée verte à Brousse, 1437-1468 mosquée bleue de Toris, 1464-1466 mosquée de Caïd Bey au Caire, mosquée de Mahomet II à Constantinople, le vieux sérail. Quand la Renaissance commence comme telle en Europe, vers 1496, bien, elle s'achève dans l'islam avec la mosquée de Bayezid à Constantinople. Non seulement les mosquées, mais les grandes œuvres poétiques, les miniatures perses, les peintures perses, le renouveau des poètes d'amour, des chantres d'amour, les soufis, etc. Parce que donc, la peinture Ming en Chine, enfin ça aussi, cette renaissance est universelle. C'est encore une période prophétique, c'est peut-être la dernière grande qui verra des Pierre Dely, cardinal de Queux dans la chrétienté, des Michirane, des Kabir dans l'Inde, etc. Mais c'est un prophétisme beaucoup plus ésotérique et plus du tout cet élan du cœur, cette grâce qu'avaient eu les grands prophètes du XIIIe siècle. C'est la description de l'arbre de liberté, c'est l'annonce des structures, notamment liberté, égalité, fraternité, mais beaucoup plus savant que spontané. Cette période, mais dit, nous n'y pouvons rien, les démons agissent, les génies agissent seuls ils auraient pu faire quelque chose pour moi, parce que quel plus grand égarement que de choisir des dieux sans pouvoir qui ne répondront pas au jour du jugement, c'est là, puisque déjà ils rejettent l'encens de l'idolâtre. Au jour de l'assemblée, ces idoles se dresseront contre leurs adorateurs, elles nieront leurs hommages. Mais plutôt que d'abolir leur vaine divinité, ils réclameront de nouveaux fléaux pour preuve que ta doctrine fut véritable. Les génies furent moins incrédules. Nous avons entendu, dirent-ils, la lecture d'un livre postérieur aux Écritures, qui confirme les Écritures et doit conduire l'homme dans la voie. Et c'est l'éclosion, c'est la victoire. La victoire de la sourate 48. Oui, nous t'avons donné une éclatante victoire. Dieu a trouvé à son gré ceux qui prêtèrent serment sous l'arbre. Il les a comblés de sa présence, leur a donné la victoire. Il vous promet un grand butin. Mahomet est l'oracle de Dieu. Ses disciples seront terribles contre les infidèles et fraternels entre eux. Les marques de leur piété paraissent sur leur front. Le Pentateuque et l'Évangile comparent le zèle des fidèles au grain de froment quand il produit. Il croit, il s'affermit sur ses racines. Le moissonneur le regarde avec complaisance. Dieu vous destine une récompense glorieuse. C'est la période, c'est exactement la période 1515-1524 où se crée le califat ottoman, le plus grand souverain musulman, Soliman Ier le Grand, et où se crée la dynastie safaïde en Perse. L'islam à ce moment-là couvre les deux tiers de l'Afrique, le tiers de l'Inde, une partie de l'Europe. Et aucun roi occidental, ni François Ier, ni Henri VIII, sauf peut-être Charles Quint, qui domine aussi d'un point à l'autre du monde, n'est l'équivalent de Soliman le Grand. C'est la victoire totale de l'islam par les Turcs. Il répète de se méfier du faux arbre. Oui, le fruit de l'arbre Sakoum sera la nourriture des réprouvés. Semblable au métal fondu, il dévorera leurs entrailles. Il y bouillonnera comme l'eau sur le feu. Mais les fidèles seront élus et préservés dans les jardins parmi les sources. Ils seront vêtus comme des princes et se regarderont dans les cieux. La période suivante, 1534-1629, comporte la lettre Kaf à la sourate 50 et le serment j'enjure par le Coran glorieux. Puis dans les trois sourates suivantes sans lettres, les serments j'enjure par le souffle des vents, j'enjure par la montagne, j'enjure par le coucher de l'étoile. La sourate 50 signée de la lettre Kaf couvre la période 1553-1572, c'est exactement la période du Concile de Trente. C'est la période où les églises se ressaisissent chez les chrétiens comme dans l'islam et essaient de créer un dieu justicier, puisque le dieu d'amour n'est pas là, un dieu souverain, puisque la Vierge ne s'impose plus. Et c'est le temps des souverains terribles et qui vont suivre les grands souverains bienfaisants comme François Ier ou Charles Quint. Ça va être le temps de Soliman le Terrible en Russie, des successeurs de Soliman, de Marie Tudor en Angleterre, de Charles IX en France, en Saint-Barthélemy, de Richard II en Espagne, des autos d'Afrique, des Ming en Chine, des empereurs mongols dans l'Inde, etc. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ou du moins catholiques, comme les chefs des théocraties calvinistes, de Calvin lui-même à Genève ou de Knox en Écosse, sont aussi terribles, et il faut rappeler les fils d'hommes comme Michel Servet. Ces hommes ne veulent plus entendre parler du Dieu futur, c'est le démon qui l'annonce, et ils ne veulent pas, c'est le combat contre la possession des démons, c'est le démon, c'est les 30 000 sorciers hautes massacrés en France entre 1570 et 1600. Mais c'est la période extraordinaire au point de vue ésotérique qui va aller, d'après les sourates, le temps des trois sourates assermentées, c'est-à-dire de 1572 à 1629, et c'est exactement le temps des Rose-Croix en Occident. C'est le temps du tantrisme dans l'Inde, c'est le temps de l'amaïsme, c'est le temps des grands ésotéristes qui ont été Pomfle, d'Andrea, etc. Dans l'Inde, c'est le temps de Kot Shirazi, qui est sans doute le plus grand prophète après Attar et Sohrawardi, qui a écrit notamment le traité de l'arbre merveilleux. Et le moulard Sadra Shirazi aussi, qui sera le grand prophète islamique, le premier moulard d'ailleurs, fondateur du schisme iranien, dont l'ayatollah serait un des successeurs. C'est toujours l'étude du Malakku, le monde intermédiaire de Sohrawardi, qui fait l'objet de ces études, mais les commentateurs sont beaucoup plus sensibles au côté imaginaire qu'au côté image. C'est beaucoup plus le temps de l'imaginaire que le temps de l'image. Et ce qu'ils retiennent surtout du Coran, c'est la sourate, qui est déjà un peu ancienne, elle, c'était la 33e sourate où Mahomet disait: quiconque garde notre foi aura le succès sans borne, car nous l'avons offerte aux cieux, à la terre et à ses montagnes, cette foi, mais tous refusèrent de s'en charger, l'homme seul s'en est chargé, lui le fou, l'ignorant. Et Moulla Sadra dit: c'est la folie de l'homme qui lui permet d'inventer ou de se préparer au Dieu futur, ce n'est pas sa raison. Et bien sûr, ce sera le dernier, comme les Rose-Croix, l'invention d'Eli Artist, de Flood, à la même époque, ou les inventions des tantriques de l'Inde. Ça sera la fin de l'empereur mongol Akbar, qui a réussi à unir les Sikhs, les musulmans, les Shivaïtes, et qui est mort en 1605. 1605, c'est le temps de Galilée, c'est la lunette astrologique, c'est Kepler. C'est les logarithmes de Néper, c'est la médecine et la mécanique moderne. On rentre dans le monde de la rationalité. Le démon a disparu. La dernière affaire diabolique de 1629-1634, c'est l'affaire de Loulin, qui est plus ridicule que terrible, où vraiment sont des nonnes en furie et excitées qui ont perdu le pauvre abbé Urbain. Maintenant, il n'y a plus de démons, c'est la raison qui va dominer. Ce n'est plus les démons qui vont de la cause vers l'avenir, c'est la raison elle-même qui va aller de la cause vers l'effet. C'est le ton du Coran qui va devenir ironique pour la première fois. On n'a pas rien trouvé d'ironique jusqu'à présent. Censure par la montagne, par le livre écrit sur une peau tendue, par le temple visité, par le sommet sublime et la mer dans son plein, la vengeance céleste viendra et rien ne pourra la suspendre. Mais quand ils verront les cieux s'écrouler, ils diront « Oh, c'était qu'un entassement de nuages ». Vous voyez mes signes, dit Dieu, mais comment les comprenez-vous? Voilà le la et la loza. Et le troisième, Mana, L-A-M. Lequel est mâle, lequel femelle, lequel vous donnera des garçons, lequel des filles? Cette distinction est folle. Ce ne sont que des noms que vous donnez au grand mystère, mais le guide qui les explicite n'a que faire de vos supputations. Dieu est le terme. Il fait rire et pleurer. Il donne la mort et la vie. Il unit l'homme et la femme, de même créé d'argile. Que ne peut-il créer à nouveau, lui, le dispensateur des biens et des jouissances? Lui, le seigneur de Sirius, dont l'heure est le plus haut de l'été. Pas 1er juillet, Cyrus. Pourquoi donc riez-vous quand vous devriez pleurer, quand vous contenterez-vous d'adorer sans comprendre? Et on voit, voilà les deux témoins, qu'il a reçu, ça c'est tout de même, c'est peut-être aussi une des choses les plus extraordinaires. Je vous ai souvent dit que les gémeaux apparaissent, réapparaissent, les deux témoins réapparaissent au XVIIe siècle. Chez les Carmes, en Italie, dans l'église gallicane, dans les symboles, c'est la fraternité, on revient à la fraternité, on va découvrir la fraternité. Or, c'est à ce moment-là, dans la sourate 50, que l'ange et le démon se changent en deux témoins. Lorsque près du tombeau, les deux anges viennent s'asseoir, chacun se présente avec ce guide et ce témoin. L'un d'eux dira, voilà ce que j'avais préparé, et voilà ce qu'il a fait, Seigneur, de mes bienfaits, de vos bienfaits. Seigneur, dira le démon, je ne l'ai pas conduit à l'erreur, il est devenu ce qu'il voulait. Ne disputez pas devant moi, répondra l'Éternel, l'arrêt est prononcé, je ne traite pas injustement mes serviteurs. Les deux témoins, que nous avons vu traiter de Gog et de Magog, que nous avons vu rejeter quand ils avaient quitté la terre, reparaissent à ce moment-là, sous cette forme extraordinaire des deux anges qui accompagnent le mort, en même temps d'ailleurs que Dieu, puisque nous avons tiré l'homme du néant, le moindre mouvement de son âme nous est connu, nous sommes plus près de lui que la veine de son cou. Et bien sûr, à la veille des temps terribles, il répète, la création de l'univers nous a-t-elle coûté le moindre effort? Cependant, il doute de la résurrection. À partir de là, il n'y a plus de lettres. Il va y avoir de la 54e sourate jusqu'à la 68e, il n'y aura plus de lettres. Et il n'y aura plus de serment non plus. C'est le temps sans Dieu. Ça s'ouvre par la 54e sourate, 1624-1648. La lune s'est fendue. En 1630, l'islam, le croissant turc et le croissant perse se défont. Les Turcs et les Perses ont commencé de se combattre. Et tandis que la lune s'est fendue, en 1648, il y a le traité de Westphalie qui va unir les peuples d'Europe contre l'islam. Et il y aura encore quelques victoires islamiques turques à la fin du siècle, mais pratiquement les défaites commencent à ce moment-là. C'est la défaite de 1680 en Vienne, et puis les premiers désastres qui vont suivre. Ayant de nouveau décrit les malheurs qui frappèrent les peuples de Noé et de Lot, les troupes du Pharaon, le prophète pose la question, votre incrédulité est-elle moins coupable que la leur? Il la répète différemment dans la sourate 55 qui comporte 31 fois le verset, lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous? Sera-ce l'ordonnancement des signes? Les merveilles de la création, un secours sans faille, une générosité sans borne, l'alternance du jour et de la nuit, la vie qui naît, la vie qui dure et recommence, les œuvres d'art, les pierres précieuses, les deux jardins, les deux fontaines, La jeune fille vierge, le bonheur des époux, lequel des bienfaits de Dieu nirez-vous? Mais l'homme ne veut plus croire en ce Dieu, en aucun Dieu. Il se vante de sa puissance, lui qui ne peut pas créer un arbre et qui ne distingue même pas l'ombre du protecteur. Un jour, le genre humain sera divisé en trois parts. Les uns occuperont la droite, quelle sera leur félicité. Les autres la gauche, quel sera leur accablement. Les élus seront hors de ces ordres, au plus près de l'État. Dans un vent brûlant ou une eau bouillonnante, dans les tourbillons d'une épaisse fumée, sont ceux qui s'abandonnèrent sur terre à la seule ivresse des plaisirs, ceux qui ont commis les pires forfaits. Parce que, disait-il, voués à la mort, au démembrement et à la poussière, comment pourrions-nous être ressuscités? Dis-leur, est-ce Dieu qui crée l'enfant ou est-ce l'homme dans la femme? Est-ce vous qui faites germer la semence que nous avons rendue stérile? L'eau, est-ce vous qui la faites pleuvoir? Le feu jaillit de vos bois, car vous savez détruire pour vous chauffer. Mais est-ce vous qui produisez l'arbre? Celui qui se débat contre la mort, nous sommes plus près de lui que vous ne l'êtes vous-même, et vous ne voyez pas notre ombre. J'avoue que j'aurais compris le Coran comme ça à 18 ans, je me serais fait musulman. Maintenant, j'en ai vu tant d'autres. Mais on commence à comprendre pourquoi le Coran alimente la croyance des hommes depuis 15 siècles quand même. Bon. Et voilà la fin. L'islam commence à s'effondrer. C'est la sourate 20-57. Les Perses, non. La splendeur perse disparaît en 705. Les disgrâces que vous éprouvez furent dans le livre, elles y sont. Que l'infortune ne vous abatte pas, que la prospérité ne vous enivre pas. Dieu est également la fille des glorieux. Ni les juifs ni les chrétiens ne doivent croire que les grâces du ciel leur sont départies pour toujours. Parce que maintenant, en effet, elles semblent départies. Mais Dieu dispose à son gré de ses faveurs, lui le suprême Seigneur. Et en effet, c'est la victoire des chrétiens et surtout des juifs. Il est à remarquer que si le Coran représente 2166 ans, la 57e sourate s'achève au bout de 1083 ans. Elle est exactement au temps de le plus bas de la courbe, les royaumes de Dieu sont au sommet. C'est le temps de l'absence de Dieu. Et tous les sourates qui vont suivre font le décrire. Je dis, le plus surprenant de la prophétie, sans doute, est de n'y trouver aucune trace du fanatisme étroit, presque imbécile, dont font montre tant de religieux quand ils parlent de l'athéisme, et Voltaire quand ils traitent de Mahomet. Ou plutôt, de n'y retrouver ce fanatisme qu'en ce qui concerne le peuple juif, objet dans les 57e premières sourates de toute la bienveillance du prophète. Il n'a pas cessé de nous dire que les juifs ont un livre comme lui, que le Pentateuque, le Coran, qu'il suffit d'être fidèle, qu'il faut chercher l'alliance.